Problème, trois attitudes différentes en face de la vie. Afin de mieux comprendre comment se pose à nous le problème du bonheur et pourquoi, devant lui, nous sommes amenés à hésiter, il est indispensable, pour commencer, de faire un tour d'horizon, c'est-à-dire de distinguer trois attitudes initiales, fondamentales, adoptées en fait par les hommes en face de la vie. Guidons-nous, si vous le voulez bien, par une comparaison. Supposons des excursionnistes partis pour l'escalade d'un sommet difficile. Et considérons leur groupe quelques heures après le départ. À ce moment, on peut imaginer que l'équipe se divise en trois sortes d'éléments. Les uns regrettent d'avoir quitté l'auberge. La fatigue, les dangers leur paraissent disproportionnés avec l'intérêt du succès. Ils décident de revenir en arrière. Les autres ne sont pas fâchés d'être partis. Le soleil brille, la vue est belle. Mais pourquoi monter plus haut? Ne vaut-il pas mieux jouir de la montagne là où on se trouve, en pleine prairie ou en plein bois? Et ils s'étendent sur l'herbe ou explorent les environs en attendant l'heure du pique-nique. D'autres enfin, les vrais alpinistes, ne détachent pas leurs yeux des cimes qu'ils se sont jurés d'atteindre. Et ils repartent en avant. Des fatigués, des bons vivants, des ardents. Trois types d'hommes que nous portons en germe, chacun au fond de nous-mêmes, et entre lesquels, en fait, se divise depuis toujours l'humanité autour de nous. Petit 1. Des fatigués ou des pessimistes d'abord. Pour cette première catégorie d'hommes, l'existence est une erreur ou un raté. Nous sommes mal engagés et par conséquent, il s'agit le plus habilement possible de quitter le jeu. Portée à l'extrême et systématisée en doctrine savante, cette étude aboutit à la sagesse hindoue pour qui l'univers est une illusion et une chaîne, ou à un pessimisme schopenhauerien. Mais sous une forme atténuée et commune, la même disposition apparaît et se trahit dans une foule de jugements pratiques que vous connaissez bien. À quoi bon chercher? Pourquoi ne pas laisser les sauvages à leur sauvagerie et les ignorants à leur ignorance? Pourquoi la science et pourquoi la machine? N'est-on pas mieux étendu que debout, mort que couché? Tout ceci revient à dire, au moins implicitement, qu'il vaut mieux être moins qu'être plus, et que le mieux serait de ne pas être du tout. Petit 2. Des bons vivants ou des jouisseurs ensuite. Pour les hommes de cette deuxième espèce, il vaut mieux certainement être que ne pas être. Mais être, prenons-y garde, prend alors un sens tout particulier. Être, vivre, pour les disciples de cette école, ce n'est pas agir, mais c'est se remplir de l'instant présent. Jouir de chaque moment et de chaque chose jalousement, sans en rien laisser perdre, et surtout sans se préoccuper de changer de plan. En ceci consiste la sagesse. Que la satiété vienne, on se retournera sur l'herbe, on se dégourdira les jambes, on changera de point de vue, et ce faisant, du reste, on ne se privera pas de descendre. Mais pour et sur l'avenir, on ne risque rien. À moins que, par un excès de raffinement, on s'intoxique à jouir du risque pour lui-même, que ce soit pour goûter le frémissement d'oser ou pour sentir le frisson d'avoir peur. Tel nous représentons-nous, sous une forme simpliste, l'ancien hédonisme païen de l'école d'Épicure. Tel était, en tout cas, il n'y a pas longtemps, dans les cercles littéraires, la tendance d'un Paul Morand ou celle d'un Monterland, ou beaucoup plus subtile, celle d'un Gide, celui des nourritures terrestres, pour qui l'idéal de la vie est de boire sans jamais étancher, mais plutôt de façon à augmenter sa soif, nullement avec l'idée de reprendre des forces, mais par souci de rester prête à se pencher, toujours plus avidement, sur toute source nouvelle. Petit 3. Et des ardents, enfin. Cela, veux-je dire, pour qui vivre est une ascension et une découverte. Non seulement pour les hommes formant cette troisième catégorie, il vaut mieux être que ne pas être, mais encore, il est toujours possible et unique.